Vous êtes sur RTL.
7h39.
Et l'Anglais Co, tout de suite avec François Langlais. Bonjour François.
Bonjour à vous, bonjour Yves.
Nous allons connaître ce matin le chiffre de l'inflation pour le mois de janvier 2020. Et l'INSEE inaugure aussi, à cette occasion, une nouvelle méthode de calcul. C'est intéressant ça.
Oui, figurez-vous que dans une heure, c'est à 8h45, ce nouvel indice des prix de l'INSEE intégrera les tickets de caisse de nos achats dans les supermarchés. Là où jusqu'ici, l'Institut effectuait des dizaines de milliers de relevés chaque mois, les prix exacts de dizaines de millions d'articles achetés ont donc été compilés et puis associés aux relevés effectués sur Internet et puis aux tarifs des services publics, etc., pour mesurer cette fameuse hausse des prix.
Alors, ça a toujours fait polémique, hein, mais l'indice des prix va-t-il être pour autant plus fiable ?
Écoutez, oui, à la marge, hein, parce qu'il est composé de bien d'autres données que les seuls prix des produits achetés. En janvier, d'ailleurs, il devrait refléter les hausses qu'on a subies, le prix du timbre, celui des cigarettes, des courses de taxi, etc. Ça devrait nous porter à une hausse sur un an de l'ordre de 1,5%.
Alors, vous savez qu'au moment où vous le dites, personne ne vous croit, hein, quand vous dites ça. Mais oui, malgré la grande estime que nous avons pour vous, parce que la hausse des... parce que la hausse des prix ressentie est toujours bien plus élevée.
Non, c'est vrai. C'est vrai, la hausse des prix, c'est l'un des indicateurs les plus controversés parce que le sentiment que nous en avons nous donne une inflation bien supérieure. Alors, il y a plusieurs
sentiments dans la hausse des prix.
Non, mais en fait, c'est ça. C'est vrai qu'on ne peut pas le dissocier. Mm-hmm. Et il y a plusieurs explications à ça parce que, d'abord, tout simplement, le fait que notre perception des prix dépend de l'évolution de nos revenus et de nos impôts, hein, même si ça n'a rien à voir avec les prix eux-mêmes. Ensuite, et c'est plus important, nous n'avons pas tous la même consommation. Un fumeur va ressentir plus durement la hausse du coût de la vie parce que depuis 20 ans, le prix du tabac a progressé de 220%, alors que le niveau général des prix n'a pris que 32%. Idem pour un ménage en zone rurale et avec des revenus modestes, il sera bien plus sensible à la hausse du prix du carburant parce que la part relative dans son budget consacrée à l'essence, elle est bien plus élevée que celle d'un bobo du centre d'une grande ville qui n'a pas de voiture.
Mais est-ce que cet indice est calculé correctement ? C'est quand même la grande question.
Oh, écoutez, c'est indubitable. Le problème, c'est que la construction elle-même de l'indice, elle est faite à partir de conventions. Des conventions qui sont d'ailleurs pas spécifiquement françaises. Hein. Oui. Elles nous viennent d'organismes internationaux. L'alimentation, par exemple, compte pour 16% du budget. Bon, pour un boulimique, c'est pas assez. pour un asset, c'est trop.
Oui.
Autre exemple plus problématique, le loyer, qui représente seulement 6% de l'indice général de l'INSEE. Ça, c'est un chiffre très contestable, parce que c'est une moyenne entre ceux qui payent un loyer et ceux qui n'en payent pas.
Oui.
Pour les premiers, le loyer compte bien plus que pour 6% de leur budget.
Bon. Est-ce que ça veut dire que l'indice des prix n'est finalement qu'une forme d'abstraction ?
Oui, l'indice des prix, c'est une moyenne, avec tous les défauts d'une moyenne. C'est-à-dire que personne ne s'y retrouve véritablement. Pour autant, il ne faut pas oublier ça, c'est une mesure plus juste, ou plutôt moins fausse que toute autre mesure particulière. Le propre d'une moyenne, c'est d'être une abstraction. Ça ne me décrit pas moi personnellement, mais c'est le point de compromis entre toutes les situations particulières. Une synthèse en somme, qui, comme toutes les mesures, est imparfaite et doit donc être complétée avec d'autres indices. Mais sans moyenne, il n'y a que des particularismes, des situations spécifiques, ce qui obscurcit le débat sur l'économie et sur la politique économique.
Passionnant, comme chaque jour avec François Langlais, qu'on retrouve bien.